Le journal Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. On est en finale, vivement dimanche. La presse fête les Bleus ce matin après leur qualification en finale du Mondial de football. Mais pourquoi cette liesse populaire? Quel lien avec la cohésion nationale, comme l'affirme le président de l'Assemblée? Sur France Culture, nous interrogerons un historien du sport à ce propos.
Et nous reviendrons ensuite, et aussi dans votre journal, sur le sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Il sera question du partage des dépenses entre les 29 États membres.
Car... un partage inégal, juge l'Américain Donald Trump. Et l'Allemagne, dit-il, n'en fait pas assez. Le pays contribue à hauteur d'1,2% de son PIB contre les 2% promis.
Dans cette édition encore, les activités parallèles des eurodéputés, médecins, avocats, elles sont trop nombreuses, estime une ONG qui a fait les comptes.
Et puis la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, embarrassée par son ancien poste, patronne des éditions Actes Sud, elle se voit retirer ses attributions, la régulation économique du secteur de l'édition. Mais d'abord, je vous propose de pencher le dos en Grèce sous le soleil estival en ce moment au-dessus de fouilles archéologiques. Elles reprennent avec l'arrivée du beau temps et la saison s'ouvre déjà avec une découverte historique dans le Péloponnèse sur le site d'Olympie ces derniers jours. Grecs et Allemands ont trouvé une tablette antique, plaque en argile gravée, qui relate un passage de l'Odyssée d'Homère. Ce pourrait être le plus ancien extrait, Angélique Couronis.
Le pays est en émoi. L'Odyssée et l'Iliade ont supplanté, un instant, la Coupe du monde du foot. C'est que la tablette antique en terre cuite, découverte sur le site d'Olympie dans le Péloponnèse, l'un des plus prestigieux du pays, car c'est sur ce site que se déroulaient les Jeux Olympiques de l'Antiquité, date du 3e siècle après Jésus-Christ. Cette tablette est la plus ancienne de l'œuvre d'Homère jamais découverte, qui confirme les textes transmis jusque-là par tradition orale dans un premier temps, puis transcrite sur des rouleaux dont seuls quelques fragments ont été découverts en Égypte. C'est dire si cette découverte est capitale pour comprendre l'œuvre d'Homère. L'inscription sur cette tablette décrit le dialogue d'Ulysse de retour dans son royaume d'Ithaque avec son porcher, Evmeos, qui, comme tout le monde, le croyait mort à la guerre de Troie. L'extrait est tiré du 14e chant de l'Odyssée qui raconte les 10 ans de voyage qui ont marqué le retour d'Ulysse. Il se compose de 13 vers et selon le ministère de la Culture, la datation de cette tablette pourrait même être antérieure à celle estimée dans un premier temps. Les archéologues grecs espèrent bien trouver d'autres tablettes sur ce site qui est fouillé en collaboration avec l'Institut allemand et l'École archéologique allemande présente en Grèce depuis plusieurs décennies.
Angélique Couronis depuis Athènes pour France Culture. Alors en Grèce, et Angélique l'évoquait à l'instant, en Grèce comme dans de nombreux autres pays, le football a soulevé les foules hier. Les Belges dépités, les Français enchantée. L'équipe de France s'est qualifiée pour la 3e fois en 21 compétitions, qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de football. Événement dont on ne peut nier l'effet rassembleur, fédérateur, avec 3 milliards de téléspectateurs à travers le monde. On estime que 30 millions de Français s'y intéressent, soit la moitié de la population du pays, de bar de quartier jusqu'au banc de l'Assemblée. Pour preuve, avec son président François de Rugy hier.
Comme beaucoup de collègues me l'ont demandé, je tiens à informer notre Assemblée que notre séance de l'après-midi sera suspendue à 19h45 et que notre séance du soir ne reprendra qu'à 21h45 pour des raisons que chacun comprendra bien et qui ont trait naturellement à l'unité nationale.
L'unité nationale, et voilà les députés équipés de maillots de football, ce qui est pourtant d'ordinaire interdit, l'un d'entre eux s'en souvient bien, les députés donc hurlant dans les jardins de l'Assemblée. C'était hier soir à Paris, à l'Assemblée nationale. Bonjour Yvan Gasteau.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du sport, maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université de Nice. Yvan Gasteau, pourquoi associer la fierté nationale à une victoire sur un terrain sportif? Est-ce que cela participe vraiment de l'identité nationale d'un pays?
On peut penser que le football est effectivement un moyen, depuis ces dernières années en tout cas, de rassembler un pays, de provoquer une sorte de suspension des animosités qui peuvent exister et de mettre en scène ce que rien d'autre ne peut mettre en scène, c'est-à-dire la cohésion nationale. Alors on sait que c'est souvent quelque chose d'éphémère, que c'est quelque chose qui peut glisser sur les réalités, mais en même temps, voilà, il y a quelque chose qui peut se réaliser dans ce contexte-là. Et la réunion des députés en est un excellent exemple.
Et comment expliquer que le football fédère autant alors que la France brille dans d'autres sports? On pense au handball, au volleyball ou au basketball?
Le football fédère parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un sport qui est simple, qui rassemble aujourd'hui, disons, un public planétaire, en quelque sorte. Et cette dimension est une dimension qui renvoie aussi au populaire. Hein, c'est que voilà le football permet de rassembler toutes les classes sociales et apparaît comme un espace en quelque sorte, un espace qui rassemble, qui provoque la possibilité de se rencontrer, qui gomme différentes réalités en quelque sorte, et cette dimension-là est une dimension qui aujourd'hui est devenue incontournable. Il y a peut-être une évolution qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui il n'est plus rare de voir un homme politique s'intéresser au football. C'est devenu une sorte de passage obligé même, puisque on le voit, le football a aussi des retombées sur l'image des hommes politiques et sur leur manière de se présenter devant le public.
Effectivement, rendez-vous dimanche pour rapporter la Coupe en France. Voici ce qu'Emmanuel Macron, présent à Saint-Pétersbourg hier, il faut le noter, voici ce que le président a écrit sur son compte Twitter. Merci beaucoup Yvan Gasteau. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'UFR STAPS à l'Université de Nice, historien et spécialiste de l'histoire du sport. L'équipe de France connaîtra ce soir son adversaire, ce sera l'Angleterre ou la Croatie.
8h07 sur France Culture, la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal. Et hasard du calendrier diplomatique, au lendemain de la défaite des Belges face aux Français en football, Emmanuel Macron se rend en Belgique.
Oui, à Bruxelles, pour participer au sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui. Il doit durer 2 jours. Il y sera essentiellement question du financement de cette alliance nord-atlantique, alliance politico-militaire. Un sommet suspendu à l'humeur de Donald Trump. Le président américain est arrivé à Bruxelles dès hier soir et il a déjà prévenu les pays membres, les Européens notamment, vont devoir faire des efforts. Ils se sont engagés à contribuer à hauteur de 2% de leur PIB pour faire face aux menaces, mais la plupart sont loin du but. Les États-Unis, eux, sont le plus gros contributeur de l'OTAN, avec un peu plus de 70% des dépenses l'année dernière. Et c'est bien pour cela qu'ils se permettent de protester en ce moment. C'est l'analyse d'Alexandra de Hoopscheffer, qui dirige un think tank américain. Elle est aussi politologue spécialiste des relations transatlantiques.
Ce qui se joue là, c'est la volonté finalement de Trump d'utiliser les questions de sécurité et de défense, et notamment ce fameux 2% du PIB en matière de dépenses militaires, comme une carte, un moyen de négociation sur les questions commerciales. C'est-à-dire que Trump crédibilise, notamment aux yeux de ses électeurs, l'idée que les États-Unis, en gros, payent pour tout le monde à l'aide d'un outil facilement mesurable, quasi mathématique, les 2%. Et donc, il justifie au passage les mesures de rétorsion économique comme les fameux droits de douane sur l'acier, l'aluminium, la menace aussi de taxer l'importation des automobiles venant d'Europe envers ce qu'il appelle ses profiteurs européens. Donc c'est aussi une manière pour lui de rentrer dans une négociation dure et je dirais tout simplement de tester les lignes rouges des Européens. C'est-à-dire que plus les Européens s'inquiète de l'engagement du leadership américain au sein de l'Alliance Atlantique, plus Donald Trump pense que les Européens seront plus prompts à faire des concessions sur le plan commercial.
Alexandra de Hoopscheffer, interrogée par Valérie Crova. La France s'est engagée à atteindre l'objectif des 2% en 2025. Elle est cette année à 1,8%. L'Allemagne, en revanche, plafonne à 1,2%. C'est donc Berlin qui sera en première ligne du viseur américain. Cela deviendrait presque monnaie courante, David Philippot.
Au dernier sommet du G7 au Canada, Donald Trump a jeté une poignée de bonbons à la chancelière en lui disant « Ne dis pas Angela que je ne te donne jamais rien ». Depuis l'élection du président américain, leurs relations sont à l'avenant, épineuses. Cette animosité ne repose pas seulement sur l'incompatibilité des caractères entre le fougueux Yankee et la prussienne réservée. Les désaccords sur le fond sont légion. L'exportation des voitures allemandes, les fausses statistiques sur la criminalité des réfugiés et donc la participation au budget de l'OTAN. L'Allemagne dépense exactement 1,24% de son PIB dans les dépenses militaires et le gouvernement Merkel a promis de les augmenter à 1,5% d'ici 2024 et non pas à 2% comme l'exige Trump, ce qui représenterait un budget défense de presque 30 milliards d'euros de plus que la France ou la Grande-Bretagne, impensable dans une Allemagne toujours gênée aux entournures de s'imaginer comme une puissance militaire. Alors, le Pentagone étudie, selon le Washington Post, la possibilité de retirer ses 35 000 soldats du sol allemand, une manière pour Donald Trump de tordre le bras d'Angela Merkel, qui présente à ses yeux le défaut impardonnable d'avoir été la meilleure amie du président Obama, dont il veut détruire l'héritage.
L'Allemagne donc, mais plus largement l'Europe, est-elle désarmée face à Donald Trump? Nous continuons d'en parler après ce journal avec nos invités. Le président américain, on l'a compris, qui veut peser sur l'économie mondiale, sur le commerce, en passant souvent en force. Nouvelle salve de menaces hier soir qu'il pourrait mettre à exécution dès la rentrée prochaine en septembre. Donald Trump veut taxer 200 milliards de dollars de produits chinois qui entrent aux États-Unis en raison toujours d'un différend sur la propriété intellectuelle. Pékin avait fait de même il y a quelques jours sur 34 milliards de dollars de produits. La Chine qui répond d'ailleurs ce matin, c'est détruire le commerce sino-américain et elle annonce saisir l'Organisation mondiale du commerce. Retour en prison pour le vétéran chinois de la dissidence Qin Yongmin. Il a été condamné hier pour subversion à 13 ans de prison. C'est la peine la plus lourde infligée à un opposant politique en Chine depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping. Qin Yongmin a déjà passé 25 ans de sa vie emprisonné ou en camp de rééducation par le travail. Voilà qui fait tristement écho à la libération hier de la veuve d'un autre dissident chinois, Liu Xiaobo. Elle est arrivée à Berlin hier après-midi, presque un an jour pour jour après la mort de son mari qui était prix Nobel de la paix. La poétesse restait depuis sous étroite surveillance et avait interdiction de quitter la Chine. Pékin précise qu'elle est en Allemagne pour y suivre un traitement médical. Selon des proches, elle souffre d'une grave dépression. Et puis en bref, encore au moins 13 personnes, dont un influent homme politique local, ont été tuées hier soir au Pakistan. Une cinquantaine d'autres personnes ont été blessées dans un attentat suicide. Attentat contre une réunion électorale au nord-ouest du pays. L'attaque n'a pas été revendiquée.
France Culture, il est 8h12. Selon une étude de l'ONG Transparency International, un tiers des députés du Parlement européen ont des revenus parallèles à leur salaire d'élu.
31% très exactement. Les eurodéputés français sont d'ailleurs les champions d'Europe de ces activités annexes, très souvent lucratives. Des activités qui, selon l'ONG, peuvent créer des conflits d'intérêts à Niavogel.
Le moonlighting, le fait d'avoir une ou plusieurs activités parallèles au mandat d'élu, concerne 60% des eurodéputés, 31% sont payés pour, et au moins 9 en tirent des revenus supérieurs à leur déjà confortable indemnité. Transparency International a passé au crible leur déclaration d'intérêt et établi une liste des 30 revenus annexes les plus élevés. En tête, un sociodémocrate italien, suivi d'un démocrate chrétien lituanien, troisième, le président du groupe libéral, le belge Guy Verhofstadt, et en quatrième position, Renaud Muselier, suivi de sa collègue du Parti populaire européen, Rachida Dati. Directeur d'entreprise, consultant, médecin, avocat, les Français sont les plus nombreux. 5 ont été élus sous l'étiquette Front National, Jean-Luc Schaffhauser, Joël Mélin, Joël Bergeron, Bernard Monod et Philippe Loiseau. Et 4, les Républicains, dont également Philippe Juvin et Angélique Delahaye, qui ferment le palmarès. Ces situations sont une source potentielle de conflits d'intérêts, souligne l'ONG, qui formule des recommandations comme elle l'avait fait pour la France, où la proposition de plafonner ses revenus annexes n'a pas encore été adoptée.
De conflits d'intérêts, il en a aussi été question dans cette décision prise par l'exécutif français. Désormais, la ministre de la Culture ne pourra plus s'occuper du secteur de l'édition. C'est une situation inédite. Selon un décret paru hier au journal officiel, le Premier ministre a retiré à Françoise Nyssen ses attributions dans ce domaine. L'objectif annoncé est d'éviter tout conflit d'intérêts éventuel, car la ministre est l'ancienne patronne du groupe d'édition Actes Sud. Cela affaiblit encore davantage Françoise Nyssen. Ilana Moriousef.
Sitôt la décision connue, Françoise Nyssen a pris acte. Selon le décret, la décision de lui retirer la tutelle du Centre National du Livre et la régulation économique du secteur de l'édition a été prise sur proposition de la ministre elle-même. Mais un acteur important du monde du livre avance une toute autre version. Françoise Nyssen aurait bataillé pour s'opposer à cette mesure. Elle voulait garder la responsabilité d'un secteur qu'elle connaît parfaitement. Elle a dû plier devant la préconisation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avec qui elle a des échanges depuis plusieurs mois. Pourquoi maintenant ? Pourquoi faire comme si on découvrait aujourd'hui que Françoise Nyssen a été dans une autre vie une figure emblématique de l'édition ? Sous couvert d'anonymat, un acteur du monde du livre suggère que les récentes révélations du Canard Enchaîné sur les conditions d'agrandissement du siège d'Actes Sud à Arles ont pu accélérer la décision. Mais quelle bizarrerie d'imaginer en France, pays littéraire si l'on fût, une ministre de la Culture dépossédée du livre.
Le temps de ce mercredi qui débute, il y aura quelques nuages ce matin à la frontière franco-belge. Allez savoir pourquoi. Quelques gouttes sont même possibles selon Météo France. Partout ailleurs, le soleil dominera et des températures assez homogènes. Entre 18 et 20 au nord de la Loire, 22 à Lyon, 23 à Bayonne, mais déjà 27 à Bordeaux et Marseille, 29 ce matin sur la Corse.
On va chasser les nuages et tenter de se trouver un soleil européen pour régler cette question. Merci Clara Lecoq, et à rendez-vous à 9h pour un prochain journal.